Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un saut historique, celui d'un jeune perchiste suédois qui vient enfin de faire tomber le record mythique en extérieur de Sergueï Boubka, vieux de 26 ans. On vous raconte dans un instant la naissance de cette nouvelle étoile de l'athlétisme mondial. Le gouvernement tente de relancer l'application Stop Covid, notamment dans les soirées ou dans les bars. On entendra Olivier Véran, le ministre de la Santé. À suivre aussi l'accueil des élèves handicapés à l'école avec 4000 accompagnants de plus pour cette rentrée, la sécheresse qui ravage les forêts de châtaigniers et pour finir, les 50 ans de la mort d'un dieu de la guitare électrique, j'ai nommé Jimi Hendrix.
À 7h50, le débat écho du vendredi avec l'économiste Thomas Piketty et Dominique Seux. Question cette semaine, que peut l'État face à la fermeture annoncée de l'équipementier automobile Bridgestone à Béthune ?
France Inter.
Et on commence, Sébastien, avec un nouveau visage du sport mondial. Un gamin de 20 ans né pour voler.
Un perchiste surdoué, en effet, qui répond au nom d'Armand Duplantis. Ce jeune Suédois vient de mettre fin à un record vieux de plus d'un quart de siècle, le saut du légendaire Boubka en extérieur. Xavier Monferrand, vous nous avez rejoint pour nous raconter cette histoire. Bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Tout s'est passé hier soir dans le ciel de Rome.
Oui, ce n'était pas un record du monde comme un autre. C'était une barre mythique, presque une barrière infranchissable. 6m14, placé là par une légende de la perche, oui, mais du sport tout court, Sergueï Boubka. Et cette barre, c'est un môme qui est venu la décrocher, Armand Duplantis. Je vais pas vous faire le coup du Mbappé de la perche, on n'aurait pas fini, mais en réalité, il n'arrive pas de nulle part. Le jeune Suédois est une comète qui est donc passé à 6m15 hier soir dans le ciel de Rome. Le Suédois est champion d'Europe en titre, vice-champion du monde. Et donc, cette comète, elle était déjà passée à 6m18 en salle en février dernier, effaçant déjà un premier record du monde, celui du français Renaud Lavillédy, son idole, un peu le grand frère, car si Armand Duplantis est suédois, le pays de sa mère, son nom sonne un peu Frenchy, hein, vous me l'accorderez.
Oui.
Il est né à Lafayette. Il est le fils d'un perchiste américain de Louisiane, un Cajun d'origine française. À 20 ans, il est donc le nouveau roi de la perche. Deux records du monde en 2020. Lui s'en souviendra comme d'une belle année et pas celle du coronavirus.
Voilà, une autre comète. Xavier Monferrand avec nous du service des sports de Radio France. 6m15, record à battre, Nicolas.
La nouvelle feuille de route sanitaire du gouvernement. 7h32, Sébastien. Moins de pression sur les écoles, mais plus sur les grandes agglomérations.
Oui, après Marseille et Bordeaux, c'est au tour de Lyon et Nice de serrer la vis, annonce des préfets attendus demain. Les protocoles vont en revanche s'alléger en crèche et en primaire pour les enfants entre eux. Pas besoin de fermer une classe pour un seul cas positif. Le port du masque toutefois va devenir obligatoire pour les professionnels dans les crèches. Sur les tests, les publics prioritaires seront les symptomatiques, les cas contacts, les soignants. On va ouvrir pour eux 20 centres supplémentaires de prélèvement en Île-de-France. Et puis concernant les tests salivaires, la Haute Autorité de Santé rend ce soir un avis très attendu. Enfin, le ministre de la Santé est revenu hier soir sur l'application téléphonique Stop Covid, très peu utilisée à ce jour, mais que le gouvernement voudrait voir se développer. On écoute Olivier Véran.
Il nous manque au fond un petit effort supplémentaire, un peu de réduction de contact dans la sphère sociale. Faire vraiment gaffe, utiliser par exemple le logiciel Stop Covid quand on va sortir dans un bar ou qu'on réunit des amis chez soi. Et si vous avez téléchargé Stop Covid, je rappelle que c'est gratuit, que c'est anonyme, que c'est sécurisé, c'est français en développement et en usage. Ça vous permet de recevoir non seulement des informations sur le virus, mais ça permet de recevoir aussi tout de suite la notification que vous êtes potentiellement cas contact. Personne d'autre que vous n'est au courant. Donc ça vous informe immédiatement pour pouvoir vous protéger et protéger les autres. Utilisez-la au moins quand vous allez justement dans un bar, lorsque vous recevez des amis chez vous, ou quand vous êtes dans une situation où les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. On peut faire davantage en termes de téléchargement et j'invite les Français qui nous regardent à le télécharger.
Olivier Véran, le ministre de la Santé. Parmi les territoires dans le viseur justement du ministre, les Bouches-du-Rhône, en début de semaine, la préfecture avait demandé à 27 communes d'instaurer le port du masque obligatoire, mais elles ne sont plus que 17 aujourd'hui, car entre-temps, des maires ont manifesté leur colère. Ils n'avaient même pas été informés par les autorités de l'État, Yann Gallic.
Des mesures sanitaires renforcées sans que les élus locaux soient prévenus, c'est incompréhensible pour Georges Christiani. En début de semaine, le maire de Mimé a appris dans la presse que sa petite commune figurait sur la liste des villes du département où le masque était devenu obligatoire, car le taux d'incidence du virus y est supérieur à 100 pour 100 000 habitants.
Dans ma commune, il n'y avait aucun cas, à ma connaissance, de tests positifs à la Covid. Lorsque l'Agence régionale de santé annonce qu'il y a 100 cas pour 100 000 habitants, ce qui rapportait à ma population devient un chiffre absurde de 5 habitants qui auraient été testés positifs. Mais le pire, c'est qu'on affole 4 700 habitants. Certains m'ont engueulé en me disant « mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous !» Alors c'est ça qui est profondément choquant.
Même si Mimet a été retiré de la liste des communes où le port du masque est obligatoire, Georges Christiani reste très remonté contre l'Agence régionale de santé.
L'ARS ne nous aide pas du tout. C'est un mépris pour les maires. C'est nous qui sommes au front, en première ligne, dans un combat dont nous ne connaissons rien. Et c'est nous qui sommes de moins en moins considérés par la haute autorité de la santé.
Pour lutter contre l'épidémie, il faut aussi faire confiance aux maires, explique Georges Christiani. Les élus locaux sont les mieux placés, dit-il, pour faire respecter les mesures sanitaires.
Yann Gallic, ajoutons que 12 résidents de l'EHPAD de Sévrac dans l'Aveyron sont morts en une semaine et 4 sont actuellement hospitalisés. Dernier bilan de la préfecture. 3 médecins sont arrivés hier en renfort. Les écoles accueilleront cette semaine davantage d'élèves en situation de handicap. 6% de plus que l'an dernier. 365 000 élèves en situation de handicap au total, qui tous ont besoin de ce qu'on appelle des AESH, des accompagnants. 4 000 AESH supplémentaires vont donc être recrutés pour cette rentrée. Un chiffre que relativisent toutefois les syndicats qui pointent du doigt les mauvaises conditions de travail de ces contractuels. Les explications de Sonia Princé.
8000 postes ont déjà été créés pour cette rentrée, avec 4000 postes en plus, c'est donc 12000 emplois d'AESH supplémentaires en 2020 et 2021. Un coup d'accélérateur pour l'école inclusive. Depuis 2017, 87 000 élèves en plus ont été accueillis. Mais pour Anne, co-représentante du collectif AESH en action, il ne suffit pas de créer des postes, il faut un accueil de qualité.
Ça peut être une bonne nouvelle dans le sens où si c'était bien géré, ça le serait. On sait très bien que on embauche des AESH, déjà sous des contrats toujours aussi précaires, et en plus, pas forcément pour pouvoir accompagner dignement des enfants. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui, effectivement, sont en nombre plus nombreux à être scolarisés, mais ils passent combien de temps à l'école? Donc on peut en rajouter 4000, mais si c'est pour que les enfants, au final, on leur dise eh ben, il va être scolarisé une demi-journée par semaine, deux demi-journées par semaine. Il y a la gestion de fond de la scolarisation des élèves en situation de handicap qui est encore très problématique.
Ces accompagnants interviennent parfois auprès de plusieurs enfants dans plusieurs établissements. Le salaire moyen est de 700 à 800 euros par mois. Beaucoup démissionnent en cours d'année. Les AESH réclament donc surtout une amélioration de leurs conditions de travail et de leur rémunération.
Sonia Prince est spécialiste éducation à Inter. Engie veut être payée davantage avant de céder Suez, éventuellement l'une de ses filiales à Veolia. C'est en résumé ce que dit le communiqué publié hier par le géant de l'énergie. Engie qui refuse donc en l'état la proposition de rachat de Veolia. Réinventer le TGV, c'est l'ambition là du patron de la SNCF. Interview en longueur ce matin de Jean-Pierre Farandou dans les colonnes des Échos. Des rames modulables à l'avenir, des TGV à l'hydrogène et en attendant de nouveaux tarifs. Tout le détail avec Adrien Serrière.
En tout cas, ça sera plus clair. Jean-Pierre Farandou demande plus de lisibilité. Il regrette notamment qu'une partie de la clientèle, celle qui achète son billet de TGV au dernier moment, n'ait pas accès aux meilleurs tarifs. On le sait, en général, plus on attend pour réserver, plus on paye cher. Parce que depuis les années 90, les prix sont calculés en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce qui fait qu'on peut parfois payer plus cher pour un Marseille-Lyon que pour un Marseille-Paris. Ce système va changer et il n'y aura pas de retour à la tarification au kilomètre. Reste donc à imaginer un nouveau mode de calcul. La direction se donne 6 mois à 1 an pour étudier la question. Avec à la clé un objectif beaucoup plus large que la politique de prix, beaucoup plus ambitieux, Jean-Pierre Farandou veut faire de la SNCF une des entreprises les plus aimées des Français. Comme des cheminots.
Adrien Serrière, tarifs et transports, toujours avec les tarifs des autoroutes qui pourraient baisser. C'est ce que préconise un rapport sénatorial dont on vous dévoilera les grandes lignes dans le journal de 8h.
7h39, des châtaigniers, Sébastien, qui craquent sous l'effet de la sécheresse.
Les forêts, on le dit depuis plusieurs jours, souffrent du réchauffement climatique, de ces épisodes caniculaires plus fréquents, notamment à cause de l'apparition de nouvelles maladies. Résultat, il va falloir couper des arbres malades ou fragilisés. 10 000 hectares à couper dans les 2 ans. Selon l'Office national des forêts, l'équivalent de 7000 terrains de foot du jamais vu. C'est le reportage dans la forêt de Montmorency, le poumon vert du Val d'Oise, signé Sandy Dauphin.
Dans cette parcelle de la forêt domaniale de Montmorency, il ne reste plus que quelques arbres debout. Il faut couper tous les châtaigniers complètement desséchés. Bertrand Munch, directeur général de l'Office national des forêts.
Une année de sécheresse extrêmement forte qui succède à deux années en 2018 et 2019. Donc c'est l'exemple ici à Montmorency des arbres qui meurent de soif. Tous nos châtaigniers, qui sont des arbres magnifiques de 60 cm de diamètre, sont morts. Et donc, il faut qu'on les abatte pour pouvoir renouveler la forêt.
Ces châtaigniers sont victimes de la maladie de l'encre, un pathogène qui s'attaque à leurs racines et les empêche de résister à la sécheresse. La progression est fulgurante ces cinq dernières années, car l'environnement climatique a changé, explique Claire Novak, responsable forêt d'Île-de-France à l'ONF.
Cette maladie a pu proliférer à la faveur d'hivers qui sont devenus très doux. Elle s'est ensuite propagée dans les parcelles avec de très fortes précipitations sur des périodes resserrées et ce micro-organisme a grignoté les racines des châtaigniers, ce qui fait que en arrivant dans les mois d'été, le châtaignier qui avait besoin de faire face à cette sécheresse en allant pomper de l'eau s'est retrouvé démuni puisque des racines, il n'en a plus. Il ne peut plus boire.
Plus du quart de la forêt de Montmorency est touchée par la maladie du châtaignier. Il faut replanter des parcelles avec d'autres essences pour reconstituer la forêt de demain et la rendre plus résistante au changement climatique.
Roland-Garros souffre aussi, mais du Covid cette fois. Le tournoi de Roland-Garros qui doit commencer le 27 septembre prochain accueillera finalement un maximum de 5000 spectateurs par jour, au lieu des 11 500 annoncés il y a 10 jours par les organisateurs.
On a commencé, Sébastien, avec une nouvelle star du sport. On termine avec une légende de la guitare.
Oui, vous aurez reconnu les premières notes de Purple Haze, l'hymne rock d'un certain Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, qui est mort il y a 50 ans, tout pile. C'était le 18 septembre 1970 à Londres. Le guitariste américain découvert en France par Johnny Hallyday. Elle a encore 20 secondes de nostalgie pour les amateurs de Telecaster. Voilà un petit Purple Haze pour les 50 ans de la mort d'Hendrix. La journée peut commencer, Nicolas.
Merci Sébastien, le génie.